le bouton, Alexis, là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est formidable de se trouver ensemble autour du Seigneur, parce que c'est lui qui nous réunit, hein, vous le savez. C'est lui qui nous réunit, hein, ce matin. C'est à cause de lui, c'est pour lui que nous sommes là. Et quand nous sommes réunis autour de lui, eh bien, il nous parle comme il l'a fait ce matin. Il nous a parlé, il nous a donné sa bénédiction. Nous avons ouvert nos cœurs et lui, il a répondu par sa parole qui vient et qui nous amène cette guérison, cette liberté, cette libération. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui ont prié pour notre voyage en Israël. Nous sommes de retour. Voilà. Sains et saufs, nous avons vécu des très beaux moments. Certains sont revenus un petit peu éclopés. On continue de prier pour Sylvie et Saorine en particulier. Voilà. Mais nous avons vécu vraiment un très beau moment de chaleureux, de communion. 43 dans un bus qui était entraîné par la guitare de Florence à louer le Seigneur. C'était vraiment des temps, je dirais, exceptionnels. Plus la visite d'un beau pays, la redécouverte d'un contexte biblique, lecture des évangiles, lecture des passages des écrits hébraïques aux endroits où les événements se sont passés. Ça éclaire et ça donne vraiment un nouvel aperçu de ce qu'on peut vivre, dans ce qu'on peut lire dans la Bible. Alors, merci beaucoup à vous qui avez prié pour nous. Voilà. Alors, nous voici arrivés au chapitre 6 de Livre des Actes. Vous le savez, nous sommes en train de parcourir peu à peu le Livre des Actes des Apôtres. La semaine dernière, Louis nous a parlé du chapitre 5, et donc me voici, et je suis avec vous pour vous parler du chapitre 6. Alors, le chapitre 6, en fait, c'est un chapitre charnière du Livre des Actes. Luc, l'auteur biblique, ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église. Et en fait, le chapitre ne va pas sans le chapitre 7, ni sans les chapitres 8 et les chapitres 9. Alors, une fois qu'on commence à prendre l'engrenage du chapitre 6, on ne peut pas s'arrêter jusqu'au verset 31 du chapitre 9. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps ce matin pour pouvoir lire la totalité de ce texte, faites-moi plaisir, frères et sœurs. Vous voulez me faire plaisir ? En plus, c'est mon anniversaire. Faites-moi plaisir, chez vous, prenez le temps de parcourir ces chapitres, ces trois chapitres, 6, 7, 8, 9, ça fait 4, 4 chapitres des Actes des Apôtres. Comme ça, vous allez avoir une belle vue d'ensemble. Alors, vous vous rappelez certainement qu'un des buts du livre, ça a été dit dans les premières prédications, du livre des Actes, et de montrer comment l'Évangile est sorti de Jérusalem et comment il est arrivé aux extrémités de la terre et via un territoire qui s'appelle la Samarie. Jésus avait dit « Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est le verset 8 du chapitre 1 du livre des Actes. Et au chapitre 6 de Livre des Actes, nous avons le tournant qui va aboutir au témoignage en Samarie. Ce passage, le chapitre 6, sert de préparation aux prochaines étapes du récit de cette mission qui démarre à Jérusalem, de l'Église qui est assise confortablement à Jérusalem, et que le Saint-Esprit, par des moyens, je dirais des fois peu conventionnels, eh bien, pousse à aller dans les lieux où elle est appelée à témoigner de l'Évangile. Vous vous rappelez certainement, lorsque je vous avais parlé de la guérison du boiteux, comment les événements s'enchaînent peu à peu. Chaque geste, chaque mot, chaque situation entraîne un événement qui en entraîne un autre et qui font l'histoire. Les personnes en général qui vivent l'histoire ne savent pas qu'ils font partie d'une histoire qui est bien plus grande qu'eux. Ils vivent leur vie, c'est tout. Mais mes amis, mes frères, mes sœurs, nous faisons partie d'une histoire qui est bien plus grande que notre petite vie. Nous faisons partie du dessein de Dieu. Vous ne savez pas où vous étiez embarqué hein, lorsque vous avez répondu oui à l'Évangile. Hein ? Mais quand nous répondons oui à l'Évangile, le Saint-Esprit nous embarque dans une histoire qui est bien plus grande que notre propre vie. Le Saint-Esprit nous tisse dans la tapisserie, je dirais, du dessein de Dieu, et chaque geste, chaque mot s'inscrivent pour l'éternité dans ce dessein. Alors, nous pouvons vivre déconnectés de ce plan divin, ou nous pouvons dire, Seigneur, de manière volontaire, de manière résolue, de manière intentionnelle, Seigneur, et nous l'avons fait ce matin, nous l'avons chanté, et j'espère pas du bout des lèvres, que ma vie te glorifie. Que ma vie te glorifie. Sans orgueil, mal placé, sans prétention, humblement, nous pouvons dire au Seigneur, prends-moi à ton service, que ma vie, que mes gestes, que mes situations, quelles qu'elles soient, que mes mots même soient pour toi, pour ta gloire. Et ce matin, si vous devez retenir de tout ce que je vais dire, si vous devez retenir une chose, c'est celle-ci, c'est cette exhortation de nous livrer, parce que moi aussi je m'embarque avec vous, de nous livrer chaque jour, de nous livrer entièrement entre les mains du Seigneur. Chaque instant, levons-nous avec cette pensée en disant au Seigneur, Seigneur, ma vie t'appartient, je t'appartiens. Ce que je suis est à toi, ce que je vis est à toi, pas à personne d'autre, à toi. C'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as libéré, c'est toi qui m'as transporté des ténèbres à ton admirable lumière. Je suis vraiment à toi par ton amour si fort, si glorieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, Seigneur, je voudrais juste commencer par cette prière-là, ensemble, et en nous levant, ensemble, en disant, alors, cela. Seigneur, on te remercie parce que tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as lavés par ton sang. Et Seigneur, aujourd'hui, ensemble, nous voulons te dire que nos vies te glorifient, que nos mots, nos gestes, nos actions, nos pensées, Seigneur, te glorifient, que la communauté que nous formons, que ensemble nous puissions te dire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, au milieu de nous, par nos vies, nos mots, nos gestes, par tout ce que nous vivons. Amen. Amen. Merci pour vos amen. On parle souvent de vision de la pensée maîtresse de notre assemblée. Quelle est la vision de l'assemblée chrétienne baptiste de Nîmes? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Quelle est l'étoile que nous regardons et qui nous met en marche? Si vous allez dans le tableau qui est dans la cafétéria, nous lisons que nous voulons être une église qui en toute chose rend gloire à Dieu. Qui en toute chose rend gloire à Dieu. C'est ça notre vision. C'est voir, contribuer à manifester concrètement la gloire de Dieu par tout ce que nous sommes et par tout ce que nous faisons, et même si c'est simplement donner un verre d'eau à un de ses plus petits. On dit que Jean-Sébastien Bach signait chacune de ses œuvres par trois lettres, S, D, G, les initiales de Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. On n'a pas besoin d'être Jean-Baptiste, de Jean-Sébastien Bach, pour vivre une vie qui glorifie le Seigneur. J'ai dit Jean-Baptiste tout à l'heure ou j'ai dit Jean-Sébastien Bach? Ah bon, ça va, parce que des fois, mon anniversaire, j'ai pris un an de plus, alors le cerveau, il y a un neurone qui a déconnecté. Voilà, donc c'est bien. On n'a pas besoin d'être Jean-Sébastien Bach pour vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Chaque vie menée dans la perspective de la gloire de Dieu est une vie belle et bonne pour le Seigneur. Alors ce matin, nous allons parler d'un homme qui a vécu sa vie, même si elle fut abrégée dans la perspective de la gloire de Dieu. Mais cet homme, il s'appelle Étienne, mais on va voir les circonstances qui a amené cet homme à glorifier le Seigneur, non pas par des choses époustouflantes, bien qu'il en ait fait, il a glorifié le Seigneur par sa mort. Et donc, mais avant d'aller à cela, reprenons l'enchaînement des événements. Alors, si vous ouvrez votre Bible au début de chapitre 6, nous allons lire le texte. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Les apôtres, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Dans l'église de Jérusalem, il y a une espèce de crise interne qui concerne la distribution des ressources aux plus faibles de l'église. Les plus faibles à l'époque, c'était les veuves. Et je vous rappelle qu'il n'y avait pas de pension de réversion, pas de sécurité sociale, pas de retraite à ce moment-là. Nous vivons dans un pays qui est quand même assez établi au niveau des rapports sociaux, et c'est très très bien. Merci Seigneur pour la France. Mais à cette époque-là, pas de pension de réversion, pas de sécurité sociale, pas de plan social d'aucune sorte. La loi et les prophètes recommandaient, ordonnaient que l'on se souvienne des plus faibles, et en particulier des veuves et des orphelins. À Jérusalem, on commence à murmurer. Certaines murmurent qu'elles sont moins bien servies que d'autres. Il n'y a pas de raison de douter que c'était faux. Ça fait toc, toc, toc quand je parle. Faut que je... Luc n'explique pas pourquoi elles ont été négligées. Sûrement une discrimination qui repose sur des différences culturelles entre juifs d'origine de la diaspora qui parlent grec, les hellénistes, et les juifs, je dirais, du cru, les juifs locaux qui se sont donnés au Seigneur. Cette discrimination va se retrouver au sein même de la communauté de l'Église de Jérusalem. Alors, c'est extraordinaire parce que la Bible ne tait pas sur les difficultés que l'Église peut rencontrer. Elle nous parle des miracles et des prodiges que les apôtres font. Elle parle des miracles et des prodiges que Étienne, etc., font. Mais elle nous parle aussi des soucis qu'il peut avoir au sein d'une assemblée. Et ça, c'est extraordinaire. Dans l'Église de Jérusalem, il y a des difficultés. Et la crise est résolue, et je le disais au conseil hier, en 7 versets. J'aimerais bien que toutes les crises au sein d'une assemblée puissent être résolues en 7 versets. Hein ? La crise est résolue par un re-engagement de la part des apôtres à leur rôle spécifique, à savoir la parole de Dieu et la prière. Et puis la mise en avant aussi de 7 personnes qui sont chargés de gérer de manière organisationnelle. Et nous voyons le résultat, la parole se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. J'aime le Seigneur, il transforme les difficultés en opportunités. Et l'Église a pu aller plus loin. Alors voici 3 choses importantes que nous devons savoir, que nous savons déjà, mais que je tiens à rappeler. Une église grandit et forme des disciples lorsqu'elle veille concrètement les uns sur les autres, et en particulier des plus faibles. Notre frère Samuel veille au grain, nous pousse à faire des progrès. Merci Samuel. Une église grandit et forme des disciples lorsque la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, Et la prière est au centre de la communauté. Merci Norbert, je serai là pour vous le rappeler. Une église grandit lorsqu'elle permet à chacun de ses membres de servir selon ses dons, ses compétences et son appel. L'église grandit et forme des disciples lorsqu'elle encourage les personnes et les libère pour le service. Dans notre assemblée, nous sommes appelés tous à nous servir les uns les autres. Ok ? C'est un bon deal ? Pas certains qui servent et les autres qui sont servis ? Servir les uns les autres. Alors continuons, c'était une parenthèse. Continuons maintenant. Deux de ces hommes qui ont été appelés vont être au tournant de l'histoire de l'Église telle que Luc la raconte. Le premier, c'est Étienne, dont nous allons parler maintenant. Le second est Philippe, qui, suite aux événements de la mort d'Étienne, va aller témoigner en Samarie. Alors Étienne, qui es-tu, cher frère, qui témoigne par ta vie et par ta mort de Jésus-Christ ? Et je dirais premièrement, c'est un homme rempli. Étienne est un homme rempli. Un homme rempli. Plusieurs versets viennent appuyer. Chapitre 6, verset 3. « Choisissez-vous parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. » 6, 5. « Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » 6, 8. « Étienne, plein de grâce et de puissance. » 7, 55. « Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Étienne, un homme rempli. Alors c'est étonnant parce qu'à la fin, il va faire un magnifique sermon, Étienne. Lorsqu'il est accusé, lorsqu'il est amené devant le Sanhédrin, il fait un magnifique sermon. Et à la fin de ce sermon, les gens qui l'écoutent sont eux aussi remplis. Ils sont remplis de quoi ? De rage. Remplis de rage. Il y en a qui sont remplis, mais remplis de rien. Il y en a qui sont remplis de rage. Et il y en a qui sont remplis, comme Étienne. Étienne, tu peux passer l'autre diapo ? Rempli de sagesse, rempli de foi, rempli de grâce, rempli de puissance, rempli du Saint-Esprit. Rempli de sagesse, nous avons parlé longuement l'année dernière de ce qu'était la sagesse dans le livre des Proverbes. La sagesse, c'est l'art de bien se conduire, l'art de vivre selon Dieu dans toutes les circonstances de la vie. C'est l'art de faire des bons choix. Et dans son service auprès des plus faibles, c'est de cela qu'Étienne avait besoin, de cette sagesse, et il en était rempli. Rempli de foi, ce n'est pas simplement être rempli d'une bonne doctrine, d'un bon enseignement, c'est aussi synonyme d'être rempli d'assurance, rempli de confiance, et Étienne en était rempli. Rempli de grâce, la grâce, elle se manifeste par des paroles et des attitudes d'encouragement, de bienveillance, par des paroles de redressement. Ce ne sont pas des paroles mielleuses qui pèguent, pas des paroles feintes, mais des paroles vraies, authentiques, qui réconfortent et qui guérissent les cœurs. Jésus-Christ, un psaume en parle. Le psaume 45, il dit « La grâce est répandue sur tes lèvres », parlant de Jésus de manière prophétique. « La grâce est répandue sur tes lèvres ». Étienne, un homme rempli de grâce, la grâce était répandue sur ses lèvres. Rempli de puissance, Étienne était près du peuple et accomplissait des prodiges et des signes miraculeux. Ils ne sont pas décrits, on ne sait pas exactement ce qu'il en était. Mais Étienne ne laissait pas indifférent son optimisme, sa fraîcheur, son désir d'aller de l'avant. Pour Jésus, c'est cela qui marquait les esprits. Lorsqu'il est devant le Sanhédrin, il est même dit que le Sanhédrin, fixant ses regards sur lui, regardait son visage et voici son visage était comme celui d'un ange. Parce qu'il était rempli. Quant à être rempli de l'Esprit Saint, Cela, c'est le fondement, je dirais, de ce que je viens de dire. Mes amis, ne pensons pas qu'Étienne était un super chrétien. Un chrétien de première catégorie. Il n'était pas un super homme en lui-même. Il a été sauvé par grâce, comme vous, comme moi. Il était un homme pécheur, comme vous, comme moi. Et il avait besoin du Seigneur, comme vous et moi. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint, vous et moi, tout comme lui. Il était rempli de l'Esprit parce qu'il était attaché au cep, comme le sarment est attaché au cep. Le sarment se nourrit de la sève qui vient du cep. Le sarment porte du fruit parce qu'il est attaché au cep. Il n'y a pas deux sortes de catégories de chrétiens. Les super, la première catégorie, les seconds, vous et moi. Il y a des croyants, vous et moi, qui sont constamment exhortés par l'Écriture à être remplis de l'Esprit. C'est l'apôtre Paul qui va dire ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment être rempli de l'Esprit? Il faut lui demander. Il faut le chercher. Il faut s'y attendre. Si c'est pour avoir le petit génie dans la lampe magique, allons-nous moucher, frères et sœurs. Nous demandons d'être remplis du Saint-Esprit pour comprendre, pour obéir à sa volonté, pour bénir les autres, pour annoncer fidèlement la parole de Dieu, pour être des témoins de la résurrection de Christ. Ce n'est vraiment pas pour nous faire mousser que nous demandons à être remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, Étienne était un homme consacré et fidèle. Étienne a été appelé à servir aux tables. On ne sait pas exactement ce que comprenait ce service, mais cela se rapprochait sûrement de la fonction d'un économe, c'est-à-dire une personne qui va gérer des stocks et des sous et qui va veiller au bon fonctionnement de la popote commune. Par cette fonction, et par le fait que l'Écriture nous dit que Étienne était un homme rempli, nous pouvons comprendre qu'il n'y a vraiment pas de dichotomie, de séparation entre ce qui pourrait être du matériel et du spirituel. Et ça fait de nombreuses années que nous vous le disons, alors moi je rajoute ma couche ce matin. Voilà, pas de dichotomie dans le service matériel que l'on peut rendre les uns et les autres. Et celui qui vous parle n'est pas plus important que celui qui va ranger les chaises au milieu de nous. Vous êtes bien assis? Merci Marc, merci l'équipe de ménage. Vous pouvez recevoir la parole de Dieu parce que ceci a été fait avant. S'il y avait des détritus au milieu de nous, est-ce que vous seriez bien assis? Vous regarderiez par terre, c'est pas propre, etc. On n'écoute pas le gars qui parle. L'apôtre Pierre, il va dire ceci. 1 Pierre 4, retourne. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme en annonçant la parole de Dieu, une responsabilité de celui qui parle. Je suis devant vous, responsable de ce que j'annonce. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Pierre réunit les deux, les deux fonctions, celui qui parle, celui qui sert. Ils peuvent être d'ailleurs les mêmes. Mais en tout cas, que celui qui sert, que celui qui parle le fasse pour la gloire de Dieu. Et nous l'avons dit, Seigneur, que ma vie te glorifie. Troisièmement, c'est un disciple, un homme qui est comme son maître. Alors l'auteur Luc a voulu mettre l'accent sur la proximité, la ressemblance d'Étienne avec notre Sauveur et Seigneur. Étienne est devant le même tribunal que celui de Jésus-Christ. Le grand prêtre est là aussi. On l'accuse des mêmes accusations que celles qui furent portées à Jésus. On l'accuse de vouloir détruire le temple et la loi. On va soudoyer aussi des gens pour porter des faux témoignages comme Étienne, comme on l'a fait pour Jésus-Christ. Étienne, à la fin de sa vie, lorsqu'il meurt lapidé, va prononcer les mêmes paroles que Jésus a prononcées. Jésus a dit « Père, je te remets mon esprit ». Étienne va dire « Seigneur Jésus, je te remets mon esprit ». Jésus va dire « Ne leur impute pas ce péché ». Étienne va dire « Ne leur impute pas ce péché ». On a l'impression comme de revivre le procès de Jésus, en quelque part. Mes amis, mes frères et mes sœurs, les prédicateurs dont je fais partie ne parlent pas souvent de l'engagement et ce que cela implique lorsqu'on désire suivre le Seigneur. Jésus enseigne que le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Lorsqu'on désire être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous amener à vivre en conformité avec le Seigneur, va amener à ce que notre vie se conforme à ce que Jésus-Christ a fait. Nous sommes amenés par le Saint-Esprit à vivre comme Jésus-Christ a mené sa vie. Étienne est le premier martyr de l'histoire de l'Église. Entre parenthèses, le mot témoin vient du grec martus, qui donnera le mot martyr. Étienne est donc ce témoin qui témoignera de Jésus-Christ jusque dans sa mort. Et au travers de sa mort, il va témoigner de qui est Jésus-Christ. On pourrait penser à une vie gâchée, à une vie foutue, mais sa mort n'a pas été inutile. C'est Tertullien, un des pères de l'Église, comme on dit, qui disait ceci. Le sang des martyrs, le sang des témoins, c'est comme une semence qui porte de la vie. Lorsque Étienne est lapidé, il y a un homme qui assiste à cette lapidation. Il s'appelle Saul. C'est lui qui garde les vêtements de celui qui est lapidé. Et en règle générale, celui qui garde les vêtements de celui qui est lapidé, c'est lui qui est l'initiateur de la lapidation. Saul il est marqué tout dans la que c'est les, il y a 5 noms de synagogue lorsque vous lisez le chapitre 6. Dans une synagogue qui est la synagogue de la Cilicie. Saul est de Tarse, en Cilicie. Étienne et Saul avaient des rapports, peut-être, au sein de cette synagogue. Qui a initié la lapidation d'Étienne? C'est Saul. Vrai, sûrement Saul. Et nous savons que Saul va devenir l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Pour l'heure, c'est un ennemi acharné de la foi. Il va devenir un apôtre de premier plan. Et sans lui, on ne serait pas là. Saul a eu deux façons de voir Jésus et qui il était. Écoutez bien, je crois que c'est extrêmement important. Nous connaissons tous son expérience sur le chemin de Damas. Il voit une grande lumière. Il en devient aveugle et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » répond Saul. Et il entend la voix qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul a eu un autre contact avec Jésus avant, auparavant. Non pas au travers d'une grande lumière, non pas par le moyen d'une voix qui venait de la lumière. Il a eu un contact avec Jésus au travers d'une vie entièrement livrée à Jésus-Christ. À travers d'une vie d'un homme qui a vécu une vie de disciple proche de son maître. Il a entendu la voix de Jésus, non pas venue du ciel, mais venant d'un homme qui était rempli du Saint-Esprit et qui a dit comme Jésus, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Frères et sœurs, nous prions pour que la ville de Nîmes soit touchée. Est-ce que c'est notre prière? Je pense que tous les groupes de maisons prient, la ville de Nîmes, notre environnement, etc. On peut même jusqu'à vouloir dire, Seigneur, envoie des anges dans telle ou telle maison pour te révéler, dans ta grandeur, etc. Et parfois ça se passe. On a des témoignages où le Seigneur se révèle à telle ou telle personne de manière extraordinaire. Mais je crois que le Seigneur veut se servir de nos vies lorsqu'elles sont entièrement livrées à lui, lorsque nos vies sont en conformité avec Jésus-Christ. Les gens nous regardent, regardent comment nous vivons, regardent comment nous nous aimons, regardent comment nous nous exprimons les uns les autres. Regardent les paroles de grâce qui sont dans nos bouches, regardent les paroles de pardon qui sont dans nos cœurs. Les gens le regardent. Nous traversons, les mêmes épreuves qu'eux. Nous sommes malades. Nous prions pour la guérison. Parfois, nous sommes guéris. Parfois, nous sommes malades. Mais les gens nous regardent. Comment est-ce que tu réagis dans ta maladie? Comment réagis-tu quand tu es dans telle ou telle situation? Seigneur, nous avons un témoignage vivant comme cela. Et plus nous nous approchons de Jésus, plus nous sommes remplis de l'Esprit Saint, plus notre témoignage sera comme cette lumière que l'apôtre Paul va voir. Saul est devenu Paul, l'apôtre des païens. Il ne parlera que très peu de son vécu avec Étienne. Mais alors qu'il est en prison, réfléchissant à sa propre vie, il dira ceci. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Frères et sœurs, n'attendons pas de mourir pour témoigner de Jésus-Christ. Juste 5 minutes. Je me rappelle une fois, j'avais 25 ans, j'avais une infection urinaire, mais carabinée. Moi, il suffit que j'ai 39 ou 38 de fièvre pour que je commence à délirer, vous savez. Chantal vous dira comment je suis quand j'ai à peine 38 de fièvre. Et je pensais que j'allais mourir. Et j'étais dans un questionnement, une angoisse vis-à-vis de la mort. Et puis, à un moment donné, je me suis rappelé, dans mon délire, peut-être le Seigneur se sert des délires, hein, mais il me dit, mais rappelle-toi tous les témoignages que tu as entendus lorsque les gens sont morts en présence du Seigneur. Il y a une paix qui était là avec eux, qui les a accompagnés. Alors je me suis dit, ah ben c'est super, je suis dans l'angoisse, donc pas dans la paix, donc je ne vais pas mourir. Vous voyez? Les délires de la fièvre. Vous savez, frères et sœurs, quand je mourrai, ce n'est pas le diable qui viendra me prendre. Ce n'est pas la maladie qui m'emportera. Ce n'est pas l'accident qui pourra me prendre. C'est Jésus-Christ qui viendra à ma rencontre et qui m'amènera avec lui. Alors, Étienne est entré dans la nuée des témoins. Il nous encourage à mener notre vie en tant que disciples du Seigneur remplis du Saint-Esprit. Paul va nous exhorter par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui ne sera de notre part un culte raisonnable à Dieu. N'attendons pas le jour de notre mort pour être remplis. Dès à présent, dès aujourd'hui, offrons notre corps en sacrifice vivant, parce que c'est le Seigneur qui nous en appelle. Amen. Soyez bénis.